Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Père Céleste, merci pour ta parole.
Parce qu'elle
est bonne. Elle nous fait comprendre de puissantes
vérités.
Pour que notre vie chrétienne puisse être pour ta gloire. Merci parce que tu oins ta parole. Tu illumines les yeux du cœur de ton peuple. Merci parce que tu es merveilleux. Seigneur, nous voulons connaître ta parole. Apprécier ta parole. Recevoir ta parole. Et vivre ta parole. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Aujourd'hui, nous allons voir direction, vision, détermination. Ces trois éléments pour avoir une vie chrétienne réussie. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont démotivés dans leur marche avec le Seigneur parce qu'en fait, il leur manque certaines bases essentielles pour comprendre comment Dieu fonctionne. Et qu'est-ce que Dieu veut faire dans leur vie spirituelle? Alors les gens se convertissent, donc ils donnent leur vie au Seigneur et puis finalement, au bout de quelques années, bon, on s'aperçoit qu'ils vont toujours à l'église, mais ils sont pas très motivés pour le Seigneur. Ils se sont refroidis pour le Seigneur. Et il y a un certain nombre de raisons pour cela. Vous savez, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin régulièrement d'être motivés dans ce que nous faisons. Vous savez, l'inconverti, il est dirigé par le péché, par sa nature spirituel qui ne connaît pas Dieu. Mais nous avons Dieu. Dieu habite dans notre cœur. Et il y a d'excellentes conséquences à cela. On va commencer par lire un texte qui est bien connu, qui est dans Osée chapitre 4 verset 6. Qui est une puissante vérité.
Osée
chapitre 4 verset 6. Alors Osée, ça se trouve à peu près aux deux tiers de votre Bible. C'est un petit prophète, comme on l'appelle.
Hosea, abafise ibibiliya z'ikirundi ari ku 980.
Osée chapitre 4 verset 6.
Hosea kane ikigabane cya gatandatu.
La Bible nous dit: mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances.
Abantu banje bishwe no kutamenya.
Ou d'autres versions disent, il périt parce qu'il manque de vision. Nous sommes des êtres humains. Et nous avons besoin de recevoir un certain nombre de choses de Dieu pour pouvoir avancer. C'est comme une voiture. Si vous mettez 5 litres d'essence dans une voiture, vous faites 50 km avec ces 5 litres d'essence. Au bout d'un moment, si vous ne remettez pas d'essence dans cette voiture, elle va s'arrêter. Et il y a un certain nombre de chrétiens qui manquent de motivation. Parce que même la toute première fois, ils n'ont même pas mis d'essence dans leur voiture. Et le pire, c'est qu'ils ne savent même pas où ils vont. On va voir que pour être motivé dans notre vie chrétienne, nous allons besoin de recevoir des directions divines. Puis rentrer dans la vision que Dieu a pour nous et finalement rester dans cette vision. Et tout ça, ça fait partie d'éléments importants sans lesquels vous ne pourrez pas avancer. Le peuple, s'il manque de vision, s'il manque de connaissances, il meurt, c'est-à-dire qu'il s'égare. C'est le peuple de Dieu qui est comme ça. Quand il ne sait pas ce que Dieu peut faire,
au
travers de sa vie. La première chose qu'il faut que vous sachiez,
c'est
que Dieu veut vous révéler sa volonté. Dieu veut nous révéler sa volonté. La Bible est claire là-dessus. Et la Bible nous montre qu'il y a deux groupes dans la volonté de Dieu. Il y a la volonté générale de Dieu qui est révélée dans sa parole. Et le psaume 119, verset 105 nous dit cette chose. Psaume 119, 105. C'est un verset qu'il est bien entouré dans sa Bible. Dieu dit dans sa parole, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça, c'est un premier aspect de la direction divine. Dieu, au travers de sa parole, nous donne une lumière pour comprendre sa volonté. Parce que la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions être éclairés dans notre vie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas le rôle de la parole de Dieu dans leur vie. Mais la parole de Dieu veut te diriger. C'est une des premières façons dont tu seras dirigé par Dieu. Dieu promet la direction et une façon de nous diriger, c'est par sa parole. Il y a des choses dans lesquelles nous n'avons pas besoin que Dieu nous parle personnellement. Parce que c'est dans sa parole. Et quand tu vois des promesses de la parole qui sont dans le Nouveau Testament, à la lumière donc de notre alliance,
et bien
c'est quelque chose que tu peux accepter dans ta vie et dire ça c'est la direction. Ça c'est la lumière. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous ne voyons pas dans le monde spirituel. Autour de nous, nous ne voyons pas dans le monde spirituel. Et Dieu doit nous diriger, nous éclairer, pour que nous puissions marcher dans la lumière. Parce que quand il est parlé d'être dirigé par Dieu, c'est forcément avoir une lumière de Dieu. Une lumière de Dieu. Dans Romains 8, 14, Dieu nous donne un autre aspect de la direction divine. Un autre aspect de la direction divine. Dieu dit dans sa parole, au travers de l'apôtre Paul, car tous ceux qui sont dirigés littéralement par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce verset veut dire la chose suivante. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire les enfants de Dieu, qui peuvent être dirigés par l'Esprit de Dieu. Et ça, ça nous parle de Dieu qui va nous diriger de façon spécifique, chacun d'entre nous, par rapport à la mission qu'il veut que nous remplissions sur la terre. Si nous sommes sur la terre, nous avons rencontré Christ comme notre sauveur personnel, Dieu a un plan pour ta vie. Le moment où tu l'as accepté comme sauveur personnel, sa lumière est venue habiter dans ton cœur, dans ton esprit, et ça va ouvrir la porte à ce que ce plan puisse être révélé. Dieu a une volonté pour toi. Il a une volonté générale pour tous ses enfants dans la parole. Et ça, nous devons connaître la parole, comprendre la parole, pratiquer la parole. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas remettre en question qui sont dans la parole. Où Dieu nous donne les grandes lignes de notre vie chrétienne. Donc sur ça, nous n'avons pas à discuter. Et nous n'avons pas à demander à Dieu, « Dieu, montre-moi ce que ta parole dit par rapport à ça. » Mais c'est à toi de lire la parole, de méditer la parole. Et par contre, là, tu peux prier Dieu en disant, « Dieu, je ne comprends pas ça. Éclaire mon cœur, éclaire mon esprit. » Et c'est là où cette parole va devenir vivante. Elle va prendre tout son sens. Et tu auras juste à la pratiquer. Et c'est tout ce que Dieu te demande dans sa volonté générale. Maintenant, dans la volonté spécifique de Dieu, il va falloir être un petit peu plus agressif dans cette recherche. Dieu a un plan. Mais pour qu'il te le révèle, pour qu'il te parle personnellement, il va y avoir un certain nombre de choses qui sont importantes. D'abord, il faut avoir une certaine soif de vouloir connaître cette volonté de Dieu. Tu peux dire, maintenant je suis sauvé, je suis né de nouveau, bon, je commence à comprendre certaines choses sur la parole, mais tu peux t'en arrêter là et ne pas te contenter de plus. Ou alors tu peux dire, non, moi je sais que Dieu a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Et là il va falloir que tu commences à te disponibiliser. Être disponible, c'est quoi? Vous savez, nous pouvons très bien vivre une vie où on lit la parole, on va à l'église, on fait des choses tout à fait classiques de la vie chrétienne. Et ça, c'est bien. Ça, c'est déjà une base. Mais il y a plus. Il y a aussi de dire à Dieu, Dieu, tu vois, bon, moi, je suis bien dans le sens de vie chrétienne, je crois que ça va. Je t'aime, je te loue, je t'adore, je donne ma dîme, je suis fidèle à mon église, bon, dans ma famille ça va, bon, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi à se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que vraiment, à quoi je peux être utile pour ton royaume? Et c'est là où tu commences à passer du temps avec Dieu. Avec ce cœur. Père, je vais être disponible pour savoir qu'est-ce que tu as pour moi. Je veux rechercher ta volonté. Je désire connaître ta volonté. Parce que je veux connaître cette volonté. Parce que je veux que ma vie serve. Vous savez, il y a quelqu'un un jour qui a écrit un livre qui l'a intitulé de la façon suivante. Sauvé pour servir. Sauvé pour servir. Sauvé pour servir. Si tu es sauvé, c'est pas seulement pour être assis le dimanche matin dans une église. Si tu es sauvé, c'est aussi pour faire quelque chose pour le Seigneur. Mais là, vous voyez, il y a deux tendances. Il y a les gens qui se contentent de la vie chrétienne au ralenti. Et il y a les gens qui sont prêts à aller sur la lune. Pour Dieu. C'est-à-dire à faire tout et n'importe quoi parce que il faut faire quelque chose pour Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui ont une volonté dans le sens où ils veulent absolument faire des choses pour Dieu. C'est pas ça. Mettre sa vie sur l'autel pour Dieu. Comme Abraham a mis son fils sur l'autel. Eh bien, c'est dire à Dieu. Dieu, non pas ma volonté comme l'a prié Jésus. Mais ta volonté. Qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur? Père, je veux être disponible. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Et ça, ça doit être une attitude de cœur. Dieu, je veux être disponible. Je suis disponible. Mais qu'est-ce que tu as pour moi? Je ne veux pas rester assis. Mais je ne veux pas non plus faire des choses que tu ne me demandes pas de faire. Même si ça paraît très bien. Même si les autres le font. Vous savez, souvent, c'est ce qu'on voit avec les gens. Parce que d'autres font ça. Alors moi aussi, je vais faire ça. Il y a des églises qui font ça.
Alors
il y a des pasteurs qui disent, ah, en ce moment on fait ça, il faut que nous aussi on fasse ça.
Il
y a des chrétiens qui entendent quelque chose. Ah, on fait comme ça et comme ça. Alors moi aussi je vais faire pareil. Mais c'est pas des modes, mes amis.
On
n'est pas dans la mode. Vous savez, les modes passent. Mais la parole de Dieu demeure.
Et
ça fait toute la différence.
Quand
tu fais quelque chose parce que les autres le font, parce que le Seigneur a parlé à quelqu'un spécifiquement, et il a dit, il faut faire ça en ce moment. C'est ça pour toi. C'est pas forcément la même chose pour toi. Il faut que le Seigneur te parle spécifiquement. Mais tu vas dire, mais comment est-ce que le Seigneur peut nous parler? Comment est-ce que je peux vraiment savoir? Philippiens nous dit quelque chose d'important. Philippiens chapitre 2, c'est un verset que j'aime beaucoup. Et on reprendra un peu plus haut après aussi de ce chapitre. Philippiens chapitre 2, Paul nous dit quelque chose d'important. Verset
13.
Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Qu'est-ce que Paul a voulu dire ici? Est-ce que Paul a voulu dire, c'est Dieu qui vous force à faire sa volonté? Non, pas du tout. Là, il parle en nous. Paul dit une chose importante. Un principe important. Moi, je me souviens quand on était à l'école biblique, on avait Kenneth Hagin qui nous enseignait deux fois par semaine. Et cet homme, il avait 60 ans dans le ministère. Il a toujours un ministère absolument énorme. Mais souvent, il disait une chose. Un des grands secrets de la vie chrétienne, c'est écoutez votre cœur. Écoutez votre esprit. Votre esprit est né de nouveau. Et dans votre esprit, il y a la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils veulent qu'un ange vienne leur parler. Ils veulent avoir une vision de Jésus. Sinon, ils disent, Dieu ne m'a pas parlé. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas très courant. La plupart du temps, le Saint-Esprit va commencer à mettre la volonté de Dieu dans ton cœur. Et tu vas ressentir dans ton cœur. Si tu écoutes ton cœur, plutôt que d'écouter ta tête, tu vas commencer à voir que Dieu commence à mettre des choses qui sont un désir. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. C'est ce que Dieu va commencer à mettre dans ton cœur, dans ton esprit. Et quand tu commences à louer, adorer Dieu, ces choses-là commencent à remonter de ton cœur, de ton esprit. C'est bizarre. À chaque fois que je suis en train de louer, adorer Dieu, ça revient. Et plus j'avance dans ma vie spirituelle, plus ces choses-là deviennent fortes, c'est comme s'il y a quelque chose qui veut me dire quelque chose. C'est pas forcément une voix. Des fois Dieu se sert de notre conscience, de la voix de notre esprit, pour nous parler. Et à ce moment-là, tu entends une petite voix à l'intérieur de toi.
Et
il y a souvent des gens qui vont dire, dans les témoignages, et ils disent, ah, j'ai entendu comme une petite voix à l'intérieur de mon cœur, là, de mon esprit.
Il m'a dit,
fais ça. Et Dieu parfois nous parle comme ça. Mais la plupart du temps, la majorité du temps, c'est le Saint-Esprit qui va mettre simplement un témoignage dans ton esprit. Quelque chose que tu ressens et qui vient et qui revient et qui revient encore, et tu, vraiment tu dis, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui pense ça, c'est quelque chose qui est là au plus profond de moi-même, et j'ai vraiment l'impression que c'est Dieu. Et Dieu, c'est souvent Dieu qui parle. Tout ce qui vient de notre esprit, ça vous aidera beaucoup. Tout ce qui vient de votre esprit, c'est divin. C'est parfait. Et c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui vient de notre cœur, de notre esprit. Tout ce qui vient de notre âme. Ça peut être influencé par notre esprit. Mais ça peut ne pas être influencé par notre esprit. Et c'est là où il faut faire attention. Moi, je vois beaucoup de chrétiens. Ils sont partagés. D'un seul coup, ils mettent un pas quelque part, dans quelque chose. Ils essayent de se convaincre que c'est Dieu. Et puis si les circonstances sont bonnes, ils vont dire, ah, c'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Si les circonstances sont mauvaises, ils retirent le pied. Ils disent, non, 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 Dieu ne m'avait jamais rien dit. Vous savez, il y a plein de gens qui sont comme ça. Je
ne
sais pas si tu pourras traduire ça, mais en français, on les appelle mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, ils sont moitié-moitié. Moitié d'un côté, moitié de l'autre côté. Et en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui sont
venus.
D'un seul coup, ils sentent une impulsion du Saint-Esprit. Ils veulent s'engager un peu dans quelque chose. Et puis d'un autre côté, ils voient leurs circonstances. Et leur âme qui leur dit, non, 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 c'est pas ça. Et alors, ils reculent. Et puis après, ils vont à gauche. Et ils essayent. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Et ils vont à droite. Et ils essayent. Bonne circonstance, mauvaise circonstance. Et finalement, vous apercevez que les mêmes personnes, pendant des années, elles tourneront. Elles tourneront. Pourquoi? Parce qu'elles n'écoutent pas leur cœur. Elles n'écoutent pas leur cœur. Quand vous ressentez quelque chose qui vient de Dieu comme ça, ne vous précipitez pas. Mettez-vous devant la présence de Dieu. Et vous dites, Dieu, tu vois, j'ai ça. Confirme-moi. Mets ça plus fort dans mon cœur. Que ce soit clair. Vous savez pourquoi les gens changent d'église tous les 6 mois? Les abats Christo grenouilles, il y en a beaucoup. Hein. Les gens vont là, après ils vont là, après ils vont là. Et le Seigneur m'a dit là. Et le Seigneur, au bout de 6 mois, a changé son calendrier et le lieu où je dois aller à l'église, c'est là. Et puis Dieu, au bout de 6 mois, a encore changé son calendrier. Il a dit, non, 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 maintenant, il faut que tu ailles là-bas. Apparemment, nous avons un Dieu à la multiple volonté. Non.
Oh, yeah.
Les gens n'écoutent pas leur cœur. Ils fonctionnent avec leur tête. Ils fonctionnent avec leur âme. Écoute ton cœur. Mets-toi devant ton Dieu. Et tu dis, Père, je veux faire ce que tu me demandes. Comme tu me demandes de faire. Où tu veux que je fasse. Comme tu veux. Oui. Quand tu veux, ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose qui doit être dans notre cœur. Parce que c'est là où nous nous rendons disponibles. La plupart des gens n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu parce que finalement, ils ne se rendent pas disponibles. Ils entendent quelque chose à l'intérieur de leur être. Ils
ne
savent pas trop si ça vient de leur esprit ou de leur tête. Et ils foncent. Ou ils entendent les autres dire des choses et ils foncent dans la même direction. C'est pas parce que d'autres vont dans une direction que peut-être que Dieu leur a dit que toi tu dois prendre exactement la même direction. Écoute ton cœur, mets-toi devant ton Père Céleste et cherche sa volonté. Et dis, Père, si ça vient de toi, alors confirme-moi. De toute façon, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes comme ça, avec une bonne disposition de cœur, il y a quelque chose qui vient. Vous
ne
savez pas trop si ça vient de votre cœur, de votre esprit,
de Dieu,
ou de votre âme, de votre personnalité. Et au début, c'est très difficile de faire la différence entre son âme, sa personnalité, qui peut être influencée par tout un tas de choses, et notre cœur, notre esprit qui est né de nouveau. Et notre esprit, il y a la différence entre notre âme et notre esprit. Il y a une chose qui est très simple. Quand les choses viennent de Dieu et que vous êtes disponible, c'est-à-dire que vous êtes prêt à écouter le Seigneur, à dire, Seigneur, ce que tu me diras, je veux l'accepter. À ce moment-là, quand ça vient de votre esprit, ça va se confirmer.
ça va se confirmer à l'intérieur de vous-même.
Harabicemezo.
Vous allez être dans la louange, l'adoration, et ça va revenir. Vous n'allez même plus y penser. Et d'un seul coup, ça va revenir.
Et vous
allez vous voir dans la chose. Dieu va confirmer ces choses.
Imana ikavyemeza.
Dans votre esprit. Quand ça vient de notre âme,
et
que nous prions sincèrement.
Tugasenga.
J'ai pas dit des chrétiens qui sont pas clairs, hein, parce qu'il y en a, ils disent, ils prient sincèrement, mais.
Nikonda vuga rero ko mu Kristo yasenze vyukuri atari wa undavuga ati ndagomba kumenya ubugombe bw'Imana bivuga ku muntu gusa.
Oui, Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté.
Utinami nditeze kumvira ubugombe bwawe.
Mais si ma chair veut ça, je vais du côté de la chair.
Ariko nimba umubiri na unyeretse ibindi mana wa tuzobonana.
Ça c'est pas être disponible.
Ivyo rero si ukwitanga.
C'est pas être sincère devant Dieu.
Ntabwo ari kuba umuntu wakuyemo ubujyajya
muri. Je parle quand vous êtes vraiment sincère devant Dieu.
Nikonda vuga rero mu gihe atabujyajya burimo uri imbere y'Imana.
Dites à Dieu vraiment.
Kavuga uti Imana.
Moi je veux faire ce que tu me demandes.
Ndagomba gukora icyo nsaba.
Mais je veux que tu me parles et que ce soit sûr. Je sois clair par rapport à ça.
Ariko ndagomba yuko bitomoka nkabimenya neza.
À ce moment-là, quand vous vous mettez devant votre Père Céleste,
muri cyo gihe mugiye wegereye Imana,
Dieu vous montrera.
Imana izokwereka.
Si ça vient de votre âme,
nimba biva mu mushaha wanyu,
ça partira au bout d'un certain temps.
Haragere gihe bikagenda.
Ça sera une belle idée.
Bizoba nk'ivyumviro
vyiza. Sera venu.
Tiage.
Tu seras dans votre tête pour un certain temps.
Kigumeye mu muto wanyu nk'imisi.
Mais tu partiras.
Mugabo kivayo.
Par contre, quand ça vient de Dieu et que vous êtes disponible, et bien à ce moment-là, Dieu commence à confirmer. Et ça revient. Et vous dites, oui, c'est ça. Maintenant, j'ai compris. Et ça, c'est une première étape.
Et
il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont même pas franchi cette étape. Et nous avons besoin de franchir cette étape. Au moins pour avoir les grandes lignes de ce que Dieu veut dans notre vie. Parce que Dieu veut nous le montrer. Dieu désire montrer sa volonté aux chrétiens. Mais malheureusement, peu sont disponibles pour écouter cette volonté. Il y a des gens, ils sont chrétiens, ils veulent faire ce qu'ils veulent et travailler pour Dieu dans ce qu'ils veulent.
Et
bien si tu fais ça, tu as tort. Tu iras dans des voies de garage. Dans des endroits où tu t'égareras. Et tu diras, je fais des choses pour Dieu. Mais finalement, tu ne fais rien pour Dieu. Tu fais ce que tu as envie de faire. Et tu mets le nom de Dieu dessus. Et ça, ce ne sera jamais une bénédiction. Alors, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Dans
1
Corinthiens 12, Paul nous révèle une chose importante. 1 Corinthiens 12. Paul nous montre, au verset 14, que nous sommes le corps de
Christ
et que le corps est constitué de membres. Il fait cette analogie, c'est-à-dire cette comparaison, avec le corps humain. Et il dit ainsi, verset 14, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas d'un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un même membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais plutôt, les membres du corps, qui paraissent les plus faibles, sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Donc, la Bible nous dit au verset 27, qu'on va lire aussi en Kirundi, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Paul nous montre ici une chose. Quand quelqu'un est né de nouveau, il est membre du corps, de l'église avec un grand E. À partir du moment où quelqu'un est né de nouveau, quelle que soit la dénomination ou l'église dans laquelle il va prier, il fait partie de l'église. Il est membre de ce corps. De ce corps de ce qu'on appelle l'église universelle. Des chrétiens nés de nouveau du monde entier. Maintenant, nous sommes limités avec notre corps ici. Géographiquement. Donc il est évident que nous faisons partie d'églises locales. Et faire partie d'une église locale, être impliqué dans son église, c'est-à-dire là où on va prier régulièrement, où on se sent être le corps local, qu'on est dans une même vision en tant qu'église,
eh
bien ça fait de vous des membres. Des membres comme le corps humain a des membres. Et la Bible nous montre que chacun a sa part. Mais la Bible nous montre qu'il y a diversité. Nous sommes tous différents. Il y a certains enseignements qui disent nous avons tous des ministères. Alors c'est vrai et c'est faux. Et il faut bien discerner les deux. Il y en a qui pensent que tout doit reposer sur le pasteur. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Mais il y en a d'autres qui disent non, non, tous les chrétiens ont un ministère. Donc ça veut dire que finalement, tous les chrétiens peuvent remplir toutes les fonctions. Donc ça c'est faux aussi. Parce que la Bible nous montre dans Ephésiens 4:11 qu'il y a 5 ministères avec des onctions particulières. Mais à côté de ça, le chrétien, quel qu'il soit, si vous ressentez un appel pour un jour être un ministère à plein temps, ou si vous dites non, non, moi je ne ressens pas de ministère spécial, mais j'aimerais vraiment faire quelque chose pour
vous.
Prier cette prière. Dites Père, j'ai envie de connaître ta volonté. J'ai envie de connaître ta volonté. Je vais être disponible pour toi. Parce que tout le monde doit être utile dans le corps. Tout le monde doit être utile dans le corps. Tout le monde n'a pas un ministère dans le sens de Ephésiens
4:11.
Mais tout le monde a son rôle dans le corps. Tu as ton rôle dans le corps. Et avant même que Dieu puisse complètement accomplir sa volonté, tu dois te disponibiliser pour Dieu. Pour connaître sa volonté. Et dire Père, je veux être disponible. Je veux connaître ta volonté. Parce que je veux faire quelque chose.
Mais
ce que tu me demandes. Tu me demandes dans ma vie sur la terre. Une fois que vous avez découvert cette volonté, il va falloir comprendre que ce n'est pas tout. Parce que là aussi, beaucoup de gens dérapent. D'abord, la première chose avec laquelle je vais être clair avec vous, c'est que Dieu veut vous parler personnellement pour vous montrer ce qu'il a pour votre vie. Chacun d'entre vous. Donc ça, c'est une chose que vous devez savoir. Dieu vous aime. Et Dieu veut vous révéler clairement ce qu'il a pour vous. Qu'est-ce qu'il a pour vous dans les grandes lignes de votre vie spirituelle. Afin que quand vous quitterez cette terre, vous ne puissiez pas dire, moi, j'étais complètement inutile dans ma vie spirituelle. Parce que ça serait dommage. Ça serait dommage. Dieu a une volonté spécifique pour chacun de nous. Et il veut nous la révéler. Maintenant, le deuxième point, c'est être dans cette vision. Dieu te révèle des choses. Dieu parle à ton cœur. Maintenant, comment tu vas mettre ça en application? Il y a plusieurs versets qui sont importants à bien comprendre. Dans Ésaïe 55, un verset que nous citons souvent parce que c'est vraiment un verset de base pour comprendre ces sujets. La Bible nous dit au verset 8: car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ici, nous savons que nos pensées, ça peut être traduit par plan. Mes volontés ne sont pas votre volonté. Ça, c'est une première chose. Nous l'avons déjà vu. La deuxième chose, c'est que Dieu dit mes voix. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu peux très bien connaître la volonté de Dieu. Dieu a pu te parler clairement.
Mais
la façon
dont
Dieu va accomplir sa volonté
au
travers de ta vie,
peut-être
que là tu dérapes.
Et
là c'est très mauvais.
Et il
y a beaucoup de gens qui sont comme ça.
Ils
entendent la voix de Dieu.
Ils disent,
mais Dieu m'a parlé.
Alors
ils vont voir un pasteur.
Où
il commence à se réunir avec des gens.
Et
Dieu m'a dit de
faire ça.
Ok, très bien. Mais discerne les temps et les moments.
Ariko menya umwanya wo kubikora nibihe.
Tu as à discerner les temps et les moments.
Nibyiza kumenya ibihe n'umwanya.
Si tu te lances comme ça parce que Dieu vient de te parler,
niwita mu bintu kuko Imana yavuze gusa.
Tu vas glisser, tu vas tomber.
Ahora shara kunyerera.
Et ça c'est classique.
Kandi byo vyama vyabaye.
De gens qui démarrent des choses.
Abantu batangura ibintu.
Ou qui font des choses.
Cyangwa bagakora ibintu.
Et Dieu leur a parlé.
Kandi Imana vyukuri yari yababwiye.
Clairement.
Yukuri.
Nous ne pouvons pas mettre ça en doute.
Ivyo novuga ntawabikekeranye.
Mais ces gens dérapent.
Ariko abo bantu bagahusha.
Parce qu'ils commencent à faire quoi?
Kubera batangura gukora iki?
Vouloir accomplir la volonté de Dieu par eux-mêmes. Et nous avons évidemment un exemple avec Moïse. Moïse, au début de l'Exode, il va ressentir cet appel.
Vous
lirez ça au début du chapitre 2 de l'Exode.
Vous trouverez
cette histoire. Moïse clairement entendu la voix de Dieu. Il va être le libérateur du peuple. Ça brûle dans son cœur. Moïse sent qu'il va être un grand leader. Il va libérer le peuple d'Israël du
jour
de l'esclavage des Égyptiens. Il le sait. C'était la volonté de Dieu parfaite pour lui. Il connaissait la volonté de Dieu pour lui, le plan de Dieu pour lui. Mais malheureusement, il a voulu y aller par lui-même. Il n'a pas discerné les temps et les moments. Et il a voulu faire ça par sa propre force. Et vous connaissez, je pense, tous cette histoire. Moïse va sortir. Et il va voir que, en fait, un soldat égyptien est en train de frapper un Israélite. Et d'un seul coup, Moïse se fâche. Il prend ce soldat égyptien. Rappelez-vous que Moïse avait été élevé auprès de la princesse d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer cet homme. Il va tuer ce soldat. Et il va être obligé de fuir. Pendant 40 ans, Moïse, qui pourtant avait pleinement vu la volonté de Dieu, a voulu l'accomplir par ses propres actions. Il n'a pas discerné les temps et les moments. Donc il est important, quand vous connaissez la volonté de Dieu, d'attendre le feu vert de Dieu pour entrer dans la volonté de Dieu. Parce que sinon vous allez déraper. Donc il est important de connaître cette volonté. Mais aussi vous allez prier cette prière de Colossiens chapitre 1 verset 9. Vous savez, la Bible nous montre des choses sur la prière. La prière du Nouveau Testament. Si tu connais la volonté de Dieu, tu es certain que Dieu t'a parlé. Tu sais ce que le Seigneur veut pour toi. Ne démarre pas tout de suite. Prie d'abord Colossiens 1:9. Regardez un petit peu ce que Paul dit. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est la première partie.
Nicyo gituma natwe uhereye igihe twazumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ibyigomba.
Donc ça, Dieu révèle sa volonté.
Imana iragomba yuko tumenye ubugombe bwayo.
Mais après, Paul va rajouter quelque chose.
Ariko mu nyuma Paulo hari cyo avuga.
En toute sagesse et intelligence spirituelle.
Umututse ukumenya ibyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ibyimpwemo.
La sagesse et l'intelligence spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, nous sommes dans un monde où nous avons marché pratiquement toute notre vie avec notre âme. En raisonnant. En réfléchissant. Et ça, bon, Dieu nous a donné une tête. Hein. Il
ne
faut pas mettre la tête à la poubelle. Vous savez, il y a des chrétiens super spirituels qui ne veulent jamais rien faire, soi-disant, avec leur tête. Non, Dieu nous a donné notre tête pour travailler dans les choses naturelles.
Et
c'est bien que Dieu nous ait donné une tête. Sinon, on aurait des sacrés problèmes. Mais les choses de l'esprit ne se résonnent pas avec la tête. Paul dira que c'est spirituellement qu'on en juge. Si Dieu t'a révélé sa volonté, tu sais vraiment que c'est la volonté de Dieu de faire telle ou telle chose. Prie ce que Paul priait sur les Colossiens. Pourquoi? Parce qu'il va te falloir de l'intelligence spirituelle et de la sagesse. D'abord, l'intelligence spirituelle va être de comprendre ce que Dieu t'a réellement dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand Dieu leur parle, ils ne comprennent pas réellement ce que Dieu a voulu dire. Ils mettent leur interprétation personnelle, pensant que Dieu leur a dit ça, et Dieu leur a dit quelque chose au départ, mais finalement, ils tordent un peu le sens. Parce qu'ils ne connaissent pas bien le monde spirituel, et les choses de Dieu. Et Paul aussi prie quelque chose. En toute sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est avoir une connaissance et savoir l'appliquer dans la vie de tous les jours. C'est connaître des choses, mais aussi savoir appliquer ces choses dans la vie de tous les jours afin de pouvoir réussir. Et si vous connaissez la volonté de Dieu, il va falloir entrer dans la vision de Dieu et savoir appliquer ce que vous voulez. Vous connaissez de Dieu, après l'avoir d'abord compris correctement, et ça vous pouvez demander à Dieu. J'aimerais vraiment comprendre ce que tu m'as dit. Et Dieu va te montrer. Il va te montrer. Il va préciser les choses. Et au bout d'un moment, Dieu va te demander de le mettre en application. Et si tu le mets en application, eh bien, c'est là où tu pourras réussir dans la volonté
de Dieu.
Parce que beaucoup de gens échouent dans la volonté de Dieu. Alors que Dieu leur a parlé. Et c'est ça qui fait le plus de mal. On voit des gens à qui Dieu a vraiment parlé. Et après, ils se plantent. Et ça fait un beau gâchis. Et après, on va dire, ah non, Dieu ne lui avait pas parlé. Méfiez-vous. Pas obligatoirement. Concluez pas trop vite quelque chose. Parce que des fois, Dieu a vraiment parlé à quelqu'un. Mais cette personne n'a pas bien compris le plan de Dieu. Et applique ce que Dieu lui a dit à sa propre vitesse et de sa propre façon. Et finalement, ça fait un beau gâchis. Connaître la volonté de Dieu, c'est une étape. Et entrer dans cette volonté et réussir ce que Dieu nous demande, c'est une autre étape. Dans Philippiens chapitre 2, Jésus va être l'exemple parfait. Jésus est l'exemple parfait. Ce texte est très intéressant. Quand nous étudions ce qu'on appelle la préexistence de Dieu le Fils, donc de Jésus avant son incarnation, c'est-à-dire que Jésus n'est pas né comme nous sommes nés,
dans
le sens venu à l'existence quand il était bébé. Nous nous avons un commencement. Dieu le Fils n'a pas de commencement. Il n'a pas de commencement. Parce qu'il est Dieu. Et en fait, à partir du verset 5, voilà ce que la parole de Dieu dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant, jusqu'à la mort de la croix. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Elle nous parle de la préexistence du Fils de Dieu. Que Jésus est Dieu le Fils. Qu'il s'est incarné. Mais pas seulement. D'habitude, on utilise ce texte justement pour montrer cela. Mais il y a aussi une puissante vérité ici. C'est en fait que Jésus avait compris le plan du Père.